Alors, une fois n'est pas coutume, nous ne sommes pas à Basse-Pointe aujourd'hui, nous sommes au Vauclin. Donc, cette émission est enregistrée sur le terrain, donc sur le territoire de la commune de Vauclin, une très belle commune d'ailleurs, et où nous sommes reçus chez une sœur ce matin.
Qui nous révèle l'amour de Jésus.
Alors, que Dieu soit béni pour toutes choses, et nous sommes contents d'être au Vauclin en ce jour, avec notre sœur, chez notre sœur. Alors, sans plus tarder, nous allons dire un grand bonjour à notre sœur. Bonjour, ma sœur.
Bonjour, bonjour à tous. Ça je représente la sœur Christine.
Tu es originaire du Vauclin ou bien tu es venu habiter une terre à portée, comme on dit?
Non, je ne suis pas originaire du Vauclin. Originaire d'où, je ne sais pas. Je suis née en métropole. Mes parents, mon père est né au Carbet, ma mère au François, donc je suis un petit peu de partout.
En fait, tu ne sais pas, quoi.
Non.
Mais depuis quand tu habites le Vauclin?
Ça fait depuis 2000, ça fait 6 ans.
Mais nous sommes arrivés aujourd'hui là et en tout cas il fait extrêmement chaud au Vauclin. Est-ce que c'est la température habituelle ou bien c'est...
Oui,
c'est
il fait très très chaud. Il fait très chaud et très sec au Vauclin. Voilà, voilà. Quand il pleut dans les autres communes, ici il y a le soleil.
Il pleut pas. Non. Donc vous êtes déjà habitué à continuer à ce climat-là. Pour nous qui sortons du nord, c'est délicat pour moi. Je suis arrivé ici, j'ai l'impression...
Il faut apprécier. Il faut apprécier cette chaleur.
Vous avez de belles plages ici, je crois.
Des plages, non. La mer, oui, mais des plages, non.
Il y a la mer, on m'a dit que dans le sud, il y a toujours de belles plages.
Au sud, peut-être dans les autres communes, Sainte-Luce, Sainte-Anne, oui. Mais au Vauclin, il n'y a pas de plage. Il y a la mer.
Alors, il y a la mer, il n'y a pas de plage. Alors, qu'est-ce qui est intéressant à part ça au Vauclin, alors?
Les moustiques.
Ah bon?
Il y a des moustiques. C'est vrai que c'est très ventilé, donc c'est quand même un atout.
Un atout. Touristique ou bien un tout
Pas trop.
D'accord.
Pas trop.
Alors, vous avez compris ça, je le redis encore pour ceux qui viennent de prendre des coups de pardon. Donc, nous sommes en direct de la commune du Vauclin, nous sommes chez une sœur. Et le quartier s'appelle comment?
La baie des Mulets.
La baie des Mulets, pourquoi ce nom
Alors, moi, au début, c'est vrai que je croyais que c'était par rapport aux ânes, mais finalement, non. C'est par rapport. Ce sont des poissons qu'on appelle des mulets et il y en a énormément. Donc,
exactement, les mulets c'est des poissons.
Oui. D'où l'appellation baie des mulets.
Mais c'est dans la rivière entre les mulets, non?
Eh ben non, il y en a ici, dans la mer.
Ah bon?
Oui.
Je découvre des choses dans ce jour. Donc, en tout cas, merci de nous recevoir chez toi. Donc, à baie des mulets.
Baie des mulets,
hein,
oui.
Si vous... Alors, nous sommes dans le cadre de l'émission Entre nous. Donc, notre sœur est là. Rappelle-moi ton prénom.
Christine.
Christine est là pour témoigner, pour dire ce que Dieu a fait dans sa vie. Alors, tu es née en métropole, tu nous as dit.
Je suis née en métropole, oui.
Donc,
je suis arrivée ici à l'âge de 8 ans.
8 ans, Martinique.
Voilà. Et je suis restée jusqu'à l'âge de 21 ans. Je suis repartie et pour revenir en 2000.
Donc, est-ce que ton enfance est quasiment passée à Martinique?
Oui.
De 8 ans,
L'adolescence, oui, ça a été fait en Martinique.
Et comment s'est passée l'adolescence? C'était bien, c'était mouvementé, c'était comment?
Très, très mouvementé, oui.
Explique-nous ça.
Eh bien, je n'ai pas eu une bonne adolescence, pas une bonne enfance non plus. D'où le témoignage que je vais donner tout à l'heure.
D'accord.
J'ai vécu vraiment des choses très difficiles.
Voilà, donc nous parlons avec notre sœur Christine. Hein.
Oui.
Christine, donc enfance mouvementée.
Très, très mouvementée, oui.
Tes parents vivaient ensemble, Christine, avant?
Oui, jusqu'à maintenant. Oui, ils sont toujours ensemble. Oui.
D'accord, ok. Donc, ils sont mariés depuis combien d'années?
De
nombreuses années, je
suppose. Ça fait en tout cas plus de 40 ans. Plus de 40 ans.
D'accord. Une famille solidaire?
Non.
Combien de frères?
Alors, j'ai deux frères et une sœur. Je suis la dernière.
La dernière. Alors, tu m'as dit que tu as eu une enfance mouvementée.
Oui.
Donc, dans quel sens, Christine?
Alors, à l'âge de 10 ans à peu près, j'ai subi un viol.
À 10 ans?
Oui.
Oui.
Et c'est vrai qu'à partir de là, ma vie a chuté.
Oui.
C'était par un proche de ma famille.
Oui.
Et c'est vrai que là, à ce moment-là, c'est vrai qu'on se retrouve on se retrouve toute seule.
Oui.
On n'a personne, en fait, vers qui crier, vers qui faire sentir cette douleur. On se retrouve toute seule. J'ai vécu la persécution, beaucoup de menaces. Donc, je n'avais pas le droit de dire ce qui se passait.
Oui.
Donc, à partir de là, c'est vrai que ma vie, c'est vrai que moi, quand j'étais plus jeune, avant ce viol, j'étais une jeune fille qui rigolait, qui était toujours en train de s'amuser, toujours en train de rigoler.
Ah oui.
Et depuis ce jour, c'est vrai que ma vie a complètement changé.
Mais à 10 ans, une jeune fille n'a pas ces choses en tête, donc pour elle...
C'est vrai, on s'y attend pas, on pense qu'à s'amuser à cet âge-là, à 10 ans, on n'a pas, on ne pense pas forcément, voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai que étant un proche de la famille, c'est quelqu'un que je voyais constamment.
Tous les jours.
Oui. Et donc, cet homme avait fait, s'est arrangé pour que, au niveau de ma famille, qu'on me fasse passer pour une menteuse. Et donc, tout ce que je disais était rejeté. On ne me croyait pas. Donc c'est vrai que je dis que je me suis retrouvée toute seule parce que tout ce que je faisais, tout ce que je disais était rejeté. J'avais beaucoup de familles autour de moi, des tantes, des oncles, des cousins, des cousines, mais je n'avais personne vers qui crier, vers qui faire connaître ma douleur. Et c'est vrai que je voyais cet homme tous les jours, je le voyais rigoler, s'amuser, et moi je voyais que moi je me suis renfermée. Je ne rigolais plus, je ne plaisantais plus. Donc mes parents, c'est vrai que mes parents et ma famille ont vite fait de dire que j'avais un sale caractère, que j'étais mauvaise tout simplement, sans chercher vraiment la raison pour laquelle j'avais changé de comportement.
Oui.
Et donc j'ai grandi comme ça. Mon adolescence a été aussi basée sur la même situation. Et c'est vrai que j'ai eu un moment de la haine. J'ai eu une haine qui est rentrée.
Toujours à 10 ans, à 10 ans.
Non, un petit peu, enfin, on va dire 11 ans, 12 ans, j'ai eu de la haine. De la haine envers cet homme, de la haine aussi envers ma famille, parce que je voyais que...
On te croyait pas.
Personne ne me croyait, personne ne voulait déjà m'écouter, personne ne voulait... voulait s'intéresser en fait à ce que j'avais à dire. Personne, j'étais toute seule. Je me sentais vraiment toute seule. Il y avait un grand vide en moi. Et c'est vrai que je me suis renfermée. J'ai grandi comme cela, mon adolescence. Et cette haine est rentrée. Et cet homme, plus cette haine prenait de la place en moi, et plus j'avais envie de tuer cet homme.
Donc, en résumé, violée donc à 10 ans,
oui.
Une jeune enfant de 10 ans qui ne pense pas à ces choses-là, forcément,
oui.
Violée, donc je suppose qu'autour de toi, tout s'écoule autour de toi, tout le monde s'écoule,
oui.
Tu te rends compte qu'une jeune enfant qui a vécu ce jour, donc c'est terrible pour elle.
Elle
voudrait en parler, elle voudrait se confier à quelqu'un, mais personne ne la croit.
Personne.
Au contraire, on la rejette encore davantage, on l'accuse de s'enfermer elle-même. Donc je suppose que là, ça t'avait été terrible pour toi.
Ça avait été terrible parce que c'est ce sentiment de rejet. On a ce sentiment de rejet, de ne pas exister. On se demande en fait pourquoi on est venu sur cette terre. C'est vrai que ces pensées sont venues assez souvent. Je me demandais, mais pourquoi est-ce que je suis venu sur terre? Pourquoi venir pour souffrir comme cela? Pourquoi j'avais vraiment un dégoût de la vie. J'avais un dégoût de la vie. C'est vrai que...
À 12 ans.
Oui, à 11 ans, 12 ans, j'avais un dégoût de la vie. J'avais vraiment... Et j'ai essayé plusieurs fois d'avaler des comprimés. J'ai essayé.
Oui.
Et ça n'a pas marché.
Oui.
J'avais envie de fuguer, mais pour moi, à mon âge, je voyais que la Martinique était très petite.
Oui.
Je voulais fuguer, mais ne pas revenir.
Oui.
Donc,
avec les risques que ça comporte.
Voilà.
Oui.
C'est-à-dire que moi, je me disais que si je partais, on allait me retrouver, on allait me ramener dans cet enfer. Et ça, pour moi, c'était quelque chose d'impossible. Je ne pouvais pas accepter cette situation.
Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un grand frère? Est-ce qu'il n'y a pas eu un grand frère?
J'avais mes frères.
Qui pouvaient essayer de te comprendre.
J'avais mes frères, si, mes frères, ils étaient là, mais mes frères étaient aussi... c'est vrai que j'ai dans ma famille mon père est très très autoritaire, très très dur, et même si j'avais parlé de ça à mes frères, ils auraient rien pu faire.
Ouais.
Ils n'auraient rien pu faire pour en tout cas pour me sortir de là eux-mêmes.
Mais en tant que jeune petite fille, moi j'ai une petite fille, les jeunes filles sont très attachées à leur papa. C'était pas le cas pour toi apparemment.
Non.
Ni attachée à ton père, ni attachée à ta mère.
Ni l'un ni l'autre.
Donc en fait, tu te retrouves seule face à un tel drame.
Voilà. Je vivais pas, je survivais.
Oui.
Je survivais.
Donc, tu sais te fuguer, apparemment, ça ne marche pas. Donc.
Ouais. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai beaucoup essayé plusieurs fois de partir, mais voilà, en me disant que je sais qu'ils vont me ramener. Donc une fois partie, moi, c'était partir pour ne plus revenir.
Oui.
Et pour moi, c'est vrai que c'était une situation que je ne pourrais pas, je n'aurais pas pu supporter le fait de revenir.
Oui.
Donc ce sont des choses que j'ai vécues. Alors au niveau scolaire, c'était la catastrophe. Je n'avais plus de bons résultats au niveau de l'école. Mon comportement, c'est vrai que j'avais toujours un visage très 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 fermé. J'avais un visage très fermé. Je ne souriais plus. En fait, j'étais devenue vraiment, je pourrais dire agressive. Et pour moi, c'était cette agressivité, le fait de me renfermer, c'était pour moi une carapace.
Oui.
Je me protégeais derrière cette attitude, derrière ce comportement. Et pour moi, je me sentais protégée du fait d'être comme ça. C'était pour moi une protection.
Oui.
Et donc, j'ai grandi comme cela. Et c'est vrai que je me rappelle que cet homme, lorsque il nous arrivait de
vous croiser,
de nous croiser, je rentrais carrément dans le mur. Mais c'est vrai que j'ai dit qu'il y a un moment où j'ai eu de la haine qui rentrait dans mon cœur, et cette haine était tellement grande que ce que j'ai fait, quand je passais, je ne frôlais plus les murs. Je voulais qu'il y ait un contact. J'attendais en fait une occasion, oui. Une simple occasion. Pour pouvoir mettre à exécution ses pensées, donc de le tuer.
Oui.
Je n'attendais que ça. Et donc, en fait, bon, j'ai grandi comme cela jusqu'à mes 21 ans, en fait, où j'ai pu partir, quitter le foyer parental.
Mais à 21 ans, avant d'avoir 21 ans, on a 18 ans, 19 ans.
Oui.
Donc, je pense qu'à cet âge-là, quand même, tu es une belle jeune dame. Donc, oui. Il y a des hommes, il y a des jeunes gens. Non. Qui te font la cour. Oui, est-ce que tu te fermais à tout cela? Tu devenais rigide par rapport à tout cela?
Oui. On me disait tout le temps que j'étais très agressive, sauvage. Voilà.
Ouais.
C'était plutôt le mot tu es sauvage.
Mais est-ce qu'après ça, quand même, tu as l'occasion d'en parler à quelqu'un à 18 ans de cela?
Non, j'ai pu en parler vraiment. J'avais. C'est vieux, hein. J'avais peut-être 20, 20. J'ai eu mon premier fils à 29 ans.
29 ans.
J'ai pu en parler vraiment.
Voilà. Donc ça s'est passé. Le viol a été commis sur ta personne à 10 ans et tu as parlé seulement à 29 ans.
Oui, j'ai pu me confier. J'ai trouvé vraiment quelque. C'est-à-dire que c'est une sœur en Christ. Enfin, c'est ma tante que le Seigneur a utilisée pour m'emmener à lui.
Oui.
Et c'est vrai que cette tante me faisait souvent des. Elle me disait mais je ne comprends pas. Tu sais, au niveau de tes parents, je ne comprends pas comment tu es. Tu sais, tes parents ils t'aiment. Et là, j'avais entendu tellement de choses. Et là, ce jour-là, je me rappelle, j'ai craqué. Et là, je lui ai tout balancé. Et là, c'est vrai que quand je lui ai dit ce qui s'était passé, eh bien, elle est vraiment restée muette. Elle ne
bouche
disait
bée.
Plus, oui, bouche bée. Elle ne disait plus rien. Elle était loin de se douter de ce que j'avais vécu. Et comme je lui ai dit, là, je te dis vraiment ce qui s'est passé. La seule chose que je peux pas faire, c'est t'obliger à me croire. Mais j'ai dit, moi, par rapport à ce qu'on dit sur moi et par rapport à ce qui s'est passé, donc, moi, je lui ai vraiment tout développé. Je lui ai tout dit. Je lui ai tout dit. Elle me dit, tu ne peux pas inventer des choses comme ça. Elle me dit, c'est pas possible. Elle me dit, tu ne peux pas inventer des choses comme ça. Elle me dit, c'est pas possible. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, bon, les années passant, elle s'est rendue compte de ce que je disais, que c'était la vérité. Et donc, j'ai dit vraiment gloire à Dieu que le Seigneur l'ait mis sur ma route parce que, honnêtement, à cette heure-ci, je ne sais pas où je serai.
D'accord, ok. Donc, tu finis par avouer, par dire à quelqu'un pour la première fois ce que s'est passé de nombreuses années après, plus de 10 ans après, tu n'arrives pas à ta tante. Donc, elle t'écoute religieusement, on va dire ça comme ça.
Oui, oui.
Donc, après, je suppose que tu pleures parce que.
Ah oui, là, j'étais.
Tu lâches
j'étais,
toutes tes larmes de ta vie.
Oui, oui, oui. Là, c'était vraiment. La pression est vraiment sortie et je me rappellerai toujours, on était dans la rue.
Ah bon?
J'allais à une consultation avec un médecin parce que j'attendais mon premier garçon.
Oui.
Et là, en plein sur le trottoir, j'ai balancé.
Ouais.
Alors dans la rue, oui, je pleurais, oui, Mais là, c'était trop. C'était une parole de trop que j'entendais depuis. Toute ma famille me disait, tu sais, tes parents t'aiment, tu sais ceci, tu sais cela. Mais je me dis, mais ces gens sont aveuglés, ils sont complètement aveuglés, ils ne voient pas. Pour moi, ils ne voyaient pas le plus loin que le bout de leur nez. Et là, c'était une fois de trop.
Mmh. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé après? Donc après cet aveu, qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que tu as été soulagé, guéri? Est-ce que tu as senti que la haine que tu avais envers cet homme qui t'avait fait tant de mal, cette haine est partie? Qu'est-ce qui s'est passé après?
Pardon. J'étais soulagée de pouvoir le confier, ça c'est vrai. Mais cette haine n'est pas partie.
Oui.
Non, cette haine était toujours là. C'est vrai que moi je vivais, quand je suis partie à l'âge de 21 ans, c'est vrai que j'ai profité. Pour moi, je me sentais libre. Donc en fait, je faisais ce que je voulais. J'ai vécu dans la fornication, j'ai commis l'adultère, j'avais fumé aussi de la drogue, enfin le joint. J'avais bu de l'alcool, j'avais vraiment...
Mais tout ça pour essayer d'oublier le passé, je suppose.
Voilà, pour me sentir libre, surtout. Oui. Pas pour oublier le passé, mais pour me sentir libre. Et en fait, je faisais en fait tout ce qui m'était interdit.
Oui.
Et donc, oui, j'étais vraiment soulagée de pouvoir le confier enfin à une oreille attentive.
Oui.
Mais ce que je veux dire, c'est que cette haine était toujours là. Je n'arrivais pas du tout à pardonner à cet homme.
Oui.
Et c'est vrai que cette tante me disait tout le temps, tu sais qu'il va falloir que tu pardonnes. Et ça pour moi c'était quelque chose d'impensable. Je ne pouvais pas pardonner. Je n'arrivais pas à comprendre comment après avoir subi toutes ces choses, pourquoi est-ce que c'était à moi de pardonner?
Alors ça c'est incompréhensible.
Non, ça c'était pour moi
impossible aussi.
Oui, c'était impensable.
Oui, d'accord.
Moi, j'ai tenu tête et je dis non, et ça c'est hors de question. Je ne
pardonnerai
pas.
Au contraire, tu aimerais mieux le tuer que de le pardonner.
Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et c'est vrai que là, je ne connaissais pas encore Christ, et c'est vrai que je ne voulais pas du tout. Il était hors de question que je pardonne à cet homme.
Voilà. Mais il y a une chose qui m'a arrêté. Tu as dit que quand tu as parlé à ta tante, je crois, que tu es allé au médecin pour ton premier enfant.
Oui.
Je suppose qu'il y avait quelqu'un dans ta vie.
Il y avait le père de mes enfants. Oui.
D'accord. Est-ce que tu lui as parlé de ça?
Non, jamais. Non, jamais. Oui. J'ai essayé avec un ex copain. Oui, je lui ai dit. La réaction a été que
il a rejeté, non?
Voilà. Mm-hmm. Il n'a pas accepté de ce viol dans ma vie. Il n'a pas accepté.
Ouais.
Alors donc c'est quelque chose que je ne disais pas.
Ouais. D'accord.
C'est quelque chose que je ne disais pas. Non. Même le père de mes enfants jusqu'à maintenant ne sait toujours pas ce qui s'est passé dans ma vie. Enfin, d'accord. Dans mon enfance.
D'accord. Ok. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe dans ta vie après ça? Donc
disons qu'après ça, c'est surtout, on va peut-être revenir un petit peu avant, parce qu'il s'est passé quelque chose de d'important dans ma vie.
Oui.
Et où il y a eu en fait une manifestation de Dieu.
Oui.
Et moi, je ne savais pas du tout. C'est vrai que moi, je me rappelle quand j'étais quand je suis partie en France, j'ai dit moi, je veux vivre sans Dieu et sans le diable. Mm-hmm. Et c'est vrai que je faisais ce que je voulais, je ne voulais obéir à personne, je faisais ce que je voulais, quand je voulais et comme je voulais. Mmh. Et c'est vrai que j'ai connu... pardon. J'ai connu, donc, j'ai eu des copains, j'ai vécu dans la fornication. Et un jour, j'ai rencontré un homme où j'étais éperdument amoureuse.
Oui.
C'était vraiment la première fois que ce sentiment était très très fort en moi.
Mmh.
Et j'ai vécu pendant à peu près un an avec lui, mais c'est vrai que tout c'était lui. Je ne voyais rien d'autre, c'était lui.
Ça s'appelle le coup de foudre, non?
Oui, je crois que, mais c'était au-delà du coup de foudre.
Ça dépassait ça.
Ça dépassait le coup de foudre.
On va dire que c'est le coup de tonnerre. Hein, ouais.
Oui, on va dire ça. Mais, et donc... cet homme, c'est vrai qu'il était tout pour moi. Pour moi, je ressentais que je vivais. Je reprenais goût à la vie.
Oui.
Pour moi, c'est vrai que cette haine, elle était toujours là dans mon cœur. Hein.
Mm-hmm.
Mais j'étais enfin heureuse.
Mm-hmm.
J'étais enfin heureuse jusqu'au jour où...
je suppose qu'il était doux, qu'il était compréhensif.
Vraiment, c'était...
Un pain doux,
voilà. Un pain doux. Et
jusqu'au jour
où c'est avec lui d'ailleurs que j'ai fumé le joint.
Mmh.
Je voulais vraiment me mettre au même niveau que lui, donc j'ai bu de l'alcool avec lui aussi.
Mmh.
Et c'est vrai que un soir où il m'a annoncé que il voulait qu'on se sépare. Mmh. Qu'il voulait qu'on se sépare parce que Moi, j'étais très réservée et lui, c'était faire la fête, toujours boire, fumer. Il n'y avait pas de jour. Hein. C'est vrai qu'on dit souvent quand on boit, quand on se lasse, c'est le week-end. Mais là, c'était même en semaine. Mmh. Et donc, il ne supportait plus le fait que je reste là à l'attendre alors que lui s'amusait toujours. Mmh. Et donc,
c'est un fêtard, en quelque sorte.
Oui, oui, oui.
Mmh. Et, un bon vivant.
Oui, et donc... Lorsque ce soir-là, il m'a annoncé qu'on devait se séparer, et là, c'était une séparation que je n'ai pas du tout acceptée. Et à lui, c'est vrai que j'ai aussi, ce soir-là, je lui ai confié que j'avais été violée, que pour moi, c'était un souffle de vie. Il était pour moi un souffle de vie. J'avais
besoin. Tu lui as dit.
Oui. Parce que lui, il ne voulait pas, il n'y avait rien à faire. Il était déterminé à ce qu'on arrête cette relation, parce qu'il savait qu'on allait souffrir beaucoup plus si on devait rester encore ensemble. Parce que lui, il n'avait pas du tout l'intention de s'arrêter. Et moi, je n'avais plus spécialement envie de le suivre au niveau de faire la fête.
Drogue, tout ça, alcool,
voilà,
tout ça.
Voilà, je n'avais plus envie. Mais j'attendais patiemment qu'il revienne.
Que lui change.
Voilà. Mm-hmm. Et donc, ce soir-là, quand il m'a annoncé qu'on devait se séparer, je lui ai annoncé, oui, que j'avais été violée. Que pour moi, c'était pour moi un souffle de vie, une nouvelle naissance. Pour moi, j'étais vraiment heureuse. Il m'avait redonné goût à la vie.
Ça ne l'a pas touché.
Et si, il pleurait, mais il était déterminé.
Mmh. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à prendre cette décision? Est-ce que c'est le seul fait que tu n'étais pas une fêtard comme lui? Ou bien est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre? Peut-être qu'il y avait quelqu'un d'autre, non?
Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas.
Oui.
Je ne sais pas. Mmh. Et donc, ce soir-là, quand il m'a dit que c'était terminé, ce soir-là, j'ai pris la décision de me tuer.
Mmh. À quel âge?
J'avais 23 ans.
23 ans, oui.
23 ans. Pour moi, c'était en fait comme si cette blessure que j'avais due au viol, en fait, c'est comme si cette séparation, c'est comme si on me donnait un autre coup au même endroit.
Oui.
Et pour moi, c'était quelque chose que je ne.
Vous ne pouvez plus supporter.
Non, cette douleur était vraiment trop grande. Et donc, j'ai décidé d'en finir avec la vie parce que pour moi, je ne comprenais pas ce que je faisais. Pour moi, j'étais une erreur. Mmh. C'était une erreur, je n'aurais jamais dû venir au monde. Et donc ce soir-là, j'ai décidé d'en finir avec la vie.
Oui.
Donc je suis rentrée chez moi et là j'ai pris des comprimés.
Tu habitais où ça entre temps?
J'habitais à Sevran-Beaudot.
À Paris ça.
Dans la banlieue, dans le 93.
93, oui.
Donc j'ai pris des médicaments avec de l'alcool parce que je ne voulais pas me louper, je ne voulais pas faire une tentative. Je voulais vraiment voilà, en finir avec la vie. J'étais déterminée. Et donc j'ai pris des médicaments en quantité avec beaucoup d'alcool et là je suis c'était le trou noir, il n'y avait plus rien. Et c'est le réveil qui a été très difficile lorsque j'ai ouvert les yeux et que j'ai vu que malgré tout ce que j'avais pris, j'étais encore en vie.
Mais quand tu te réveilles, est-ce que tu t'es pas dit mais où suis-je? Est-ce que je suis en enfer ou au paradis?
Non, la question
n'est pas venue de ton esprit.
Non, c'est-à-dire que quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu le cadre de la chambre. Là, c'était vraiment.
C'est que tu étais bien en vie,
voilà.
Dans ta maison.
Voilà. Donc, je me suis levée et ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans mon placard à produits toxiques, on va dire. Et là, j'ai pris de l'eau de Javel. Et j'ai bu de l'eau de Javel en pensant que ça allait me détruire, que ça allait me... Et ça fait tout l'effet inverse, en fait. Tout ce que j'avais pris au niveau alcool, au niveau médicaments, eh bien, tout est remonté.
Oui.
Donc, mais j'étais déterminée. Donc, je suis restée là, c'est vrai. Et je pleurais, j'étais vraiment... Je voulais vraiment, c'était mon objectif, c'était d'en finir, que le jour ne se lève pas et que je sois encore en vie. Donc, ce que j'ai fait, après, j'ai pris une lame de Gillette. Et là, j'ai commencé à me taillader les veines. Et c'est vrai que j'avais du sang qui coulait de partout. Je me suis tailladé les mains. Mais rien n'y faisait. Il n'y avait rien à faire. Tout ce que j'essayais, ça ne marchait pas.
Il y avait du sang qui coulait.
Il y avait du sang qui coulait de partout, ouais. Mais...
Et pourtant, tu étais toujours en vie.
J'étais toujours en vie. Mmh. J'étais toujours en vie. Donc, après, j'ai pris la décision de me noyer.
Oui.
Donc je suis allée dans ma baignoire et là j'ai fait couler de l'eau.
Oui.
Et là je suis rentrée sous l'eau.
Oui.
Et je suis restée un bon moment. Il y avait tout ce que j'essayais, c'était peine perdue, je n'arrivais pas, il n'y avait rien à faire.
Oui.
Alors, j'habitais dans une tour au 10e étage.
Au 10e étage.
Au 10e étage. Mmh. Et donc, je suis allée à la fenêtre. Je suis allée à la fenêtre et j'ai regardé en bas. Mmh. Et là, j'ai décidé de sauter par la fenêtre.
Oui.
Donc, mais je ne voulais pas me louper. Je voulais vraiment tomber sur le ciment. Je voulais, à la rigueur, même si on me récupérait comme un légume, mais je ne voulais plus avoir cette douleur, cette souffrance.
Mais avant d'aller plus loin, quelqu'un qui va se suicider comme cela, est-ce qu'il n'y a pas une petite peur de se faire du mal, de se rater, de rater le coup, de souffrir après? Est-ce qu'il y a pas une... Est-ce qu'on est tellement aveuglé par cela, on souffre tellement que la vie nous devient plus pesante que la mort? Comment ça se passe dans l'esprit de quelqu'un qui va se suicider?
Mais c'est-à-dire qu'il n'y a aucune peur. Aucune peur.
Aucune peur.
Il n'y a eu aucune peur juste au moment où je vais continuer. Absolument. Ce qui s'est passé. Là, j'ai eu peur.
Oui.
L'intervention, il y a une intervention divine et là, j'ai eu peur. Je n'avais pas peur du tout de...
Ça.
Alors, je suis passée par la fenêtre. Je suis passée de l'autre côté. Il y avait un petit rebord. Donc, j'avais les deux pieds sur le rebord. J'étais dos au vide.
Oui.
Et j'ai lâché.
Oui.
J'ai fait un mouvement, j'ai lâché. Oui. Et là, j'ai senti qu'on me repoussait contre le rebord de la fenêtre.
On te repoussait?
On m'a repoussé contre le rebord de la fenêtre. Et là, à ce moment-là, j'ai eu peur.
Tu t'es lâché dans le vide, vraiment?
Je me suis lâché.
Oui. Et là, au dixième étage?
Oui, au dixième étage.
Oui.
Et là, j'ai senti qu'on me repoussait au niveau de la fenêtre.
Oui.
Et là, j'ai eu peur. Là, oui. Je suis rentrée précipitamment dans ma chambre et je criais, mais j'ai dit, mais qui est là? Qui a fait ça? Qui m'a repoussé? Et je ressentais qu'il y avait une pression. J'ai dit, mais qui a fait ça? Qui m'a repoussé près de cette fenêtre? Et je pleurais. Et là, j'ai vraiment eu peur. Parce que je ne comprenais pas ce qui s'était passé. Oui. Je ne comprenais pas du tout ce qui s'était passé. Et lorsque j'ai réussi à me calmer, je suis allée à la fenêtre. Je me suis dit, c'est peut-être un voisin. Mais j'avais un voisin au-dessus de chez moi, j'avais un voisin en dessous de chez moi, et je n'avais pas de voisin face à ma fenêtre.
Oui.
Donc ça, c'est quelque chose, c'est un secret que j'ai gardé pendant très 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 longtemps. Mm-hmm. Parce que je ne savais pas à qui raconter déjà ce qui s'était passé. Moi-même, je ne comprenais pas ce qui s'était passé, et donc je me voyais mal raconter ce qui s'était passé à quelqu'un. Donc c'est quelque chose que j'ai gardé pendant très longtemps. Et c'est vrai qu'assez souvent, cela me revenait à l'esprit, ce qui s'était passé au niveau de cette fenêtre. Et j'ai pu en fait en parler, toujours avec cette tante qui me parlait de Jésus. Un jour, je lui ai dit, tu sais, il faut que je te raconte quelque chose. Je vais te raconter quelque chose, mais c'est quelque chose qui s'est passé lors de ma tentative de suicide. Mais j'ai dit, je ne pourrais pas t'expliquer ce qui s'est réellement passé, parce que moi-même, je ne sais pas. Et lorsque je lui ai expliqué, donc moi c'est vrai que je me rappelle, lorsque je lui expliquais, je me dis, mon Dieu, mais est-ce qu'elle va... C'était pour moi la question, est-ce qu'elle va me croire? Et lorsque je lui ai expliqué, je lui ai dit exactement ce qui s'était passé, tranquillement, tout tranquillement, elle me dit oui, Dieu a envoyé ses anges. Et là, quand elle m'a dit ça, c'est vrai que... C'est quelque chose que je me disais, mais je ne comprends pas. Mais j'ai dit, mais je ne m'intéressais pas à Dieu. Je ne priais pas, je ne m'occupais pas de Dieu. Mais j'ai dit, mais pourquoi il a envoyé ses anges? Mais pourquoi il a fait ça? J'ai dit, mais moi, je ne m'occupais pas de lui. Je ne peux pas comprendre que Dieu envoie ses anges pour me repousser. Elle me dit, oui. Elle me dit, peut-être que toi, tu ne t'intéressais pas, mais Dieu... ce jour-là, elle me dit, le diable était là. Elle me dit, le diable était là, il voulait que tu meures. Mais elle me dit, Dieu était là, lui ne voulait pas que tu meures. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touché. Mmh. Et ça m'a permis, parce que moi, même au niveau de Dieu, je me disais, mais Dieu ne m'aime pas. Si Dieu m'aimait, Dieu n'aurait pas permis que je vive tout ce que j'ai vécu dans mon passé. Mmh. Et c'est vrai que, étant déterminé vraiment à en finir à la vie, je ne comprenais pas qu'il intervienne dans ma vie pour m'empêcher d'aller jusqu'au bout. De ma détermination, je ne comprenais pas. Et
mais est-ce que tu as voulu errer, c'est malgré ça, tu as eu peur, donc tu es entré dans ta maison, tu as commencé à pleurer.
Oui.
Est-ce que tu as voulu, tu as dit que ce n'est qu'une partie remise,
Non, c'est-à-dire que quand j'ai fini moi au niveau de la fenêtre, c'est vrai que j'étais toujours déterminé à mourir. Donc ce que j'ai fait, j'ai ouvert le gaz. J'ai laissé le gaz ouvert dans ma cuisine. Et je me suis dit, je vais tout faire sauter. Mmh. je vais tout faire sauter. Et c'est vrai que plus le gaz a été ouvert et j'étais là, et c'est vrai que j'ai eu une pensée. À ce moment-là, j'ai eu une pensée pour mes voisins, pour un couple qui avait beaucoup d'enfants, qui étaient vraiment des voisins très agréables, et j'ai pensé à eux. Mm-hmm. Et je me suis dit, non, j'ai un compte à rendre, moi, à la vie, mm-hmm. mais moi, je ne veux... C'est moi qui ai un compte à rendre avec la vie, c'est pas mes voisins. Mm-hmm. Je voulais mourir, moi, mais je ne voulais pas que les autres périssent par rapport à ce que moi, j'avais décidé de faire. Et donc j'ai arrêté. À ce moment-là, j'ai arrêté, j'ai fermé le gaz, et j'ai décidé de me pendre. Donc j'ai pris une corde, j'ai essayé, je me suis suspendue.
Oui.
Et vraiment tout était impeccable.
Oui.
Impeccable. Lorsque j'ai passé la corde autour de mon cou et que je me suis mis au bord de la chaise, là la corde a cédé.
C'est pas vrai.
La corde a cédé. Vraiment tout ce que j'avais essayé, et le jour déjà était en train de se lever. J'avais passé toute la nuit à échafauder des plans pour en finir avec la vie, et le jour était déjà levé, et j'avais tout ce que j'avais essayé n'avait pas marché.
Alors on va comptabiliser, donc il y a eu une première tentative de suicide dans le même jour, ça s'est passé le même jour,
la même soirée.
Donc tu as essayé d'abord
les médicaments et l'alcool, l'eau de Javel.
Après l'eau de Javel, la baignoire.
Non, les lames de rasoir. Je me
les
suis
lames de rasoir.
Ensuite,
les veines.
Oui. Mmh. Ensuite, j'ai essayé de me noyer.
Ça fait 4.
Oui, j'ai essayé de me jeter par la fenêtre.
Ça fait 5.
Ensuite, j'ai ouvert le gaz. Je voulais tout faire sauter.
Oui.
Et la dernière, c'était la pendaison.
La pendaison. Mais certaines personnes pouvaient dire, mais c'est parce qu'elles ne voulaient pas se suicider. Elle n'est pas parvenue à cela. Tu te dis non, c'est pas vrai, toi tu voulais vraiment le faire.
Ah oui, moi j'étais déterminée. Moi je ne voulais déjà pas voir le jour se lever et que moi je puisse encore avoir les yeux ouverts.
Là tu étais toute seule dans la chambre.
Ah oui, j'étais toute seule chez moi là.
Je dis ça parce que souvent en Martinique on a vu le cas des personnes qui souffrent mais qui désirent attirer l'attention des autres sur eux pour comprendre leur souffrance. Donc ils font des gestes de suicide quand il y a du monde, bien sûr.
Oui, non, j'étais toute seule. Mais là,
donc ça veut dire que vraiment tu voulais en finir avec la vie.
J'étais déterminée. Je ne pouvais pas supporter de, au niveau de cet homme, je ne pouvais pas supporter de passer ne serait-ce qu'un jour sans lui. C'était vraiment obsessionnel. Et c'était, non, je vous dis comme, c'était me frapper au même endroit où j'avais déjà cette douleur qui était là, cachée dans un petit coin, mais qui était toujours là. Et pour moi, je voyais pas l'utilité de rester en vie. Je voyais pas la raison déjà pourquoi j'étais venue sur Terre, et je voyais pas l'utilité de rester sur cette Terre. Pour moi, c'était un bon débarras. Le fait de me tuer, pour moi, au niveau de la famille, pour moi, je me disais pour eux, ça sera un bon débarras.
Mm-hmm. D'accord. Mais aucune peur, aucune crainte en toi-même.
Non.
À part le fait.
De la fenêtre, là, ouais. Non, aucune peur. Aucune.
Ouais. Christine, nous parlions en antenne et tu nous disais, on sent chez toi cet acharnement d'en finir avec la vie. Mais de notre côté, on sent également chez Dieu cet acharnement à te garder en vie.
C'est vrai.
Et tu nous disais en antenne qu'à l'âge de 11 ans, il s'est passé quelque chose dans ta vie encore.
Ah oui, à l'âge de 11
là,
ans.
Là, on fait un retour. Comment on dit ça? Un flashback?
Oui.
Un comeback, oui. On va dire ça comme ça.
À l'âge de 11 ans, c'est vrai que j'étais dans la voiture avec mes parents. Ils ont eu un accident, ils sont tombés dans un trou. Et moi, je suis passée par le pare-brise. Et j'étais vraiment celle qui était la plus atteinte. J'avais vraiment deux gros trous au niveau de...
Il y a encore des traces là.
Oui, il y a encore des cicatrices.
Je vois les cicatrices, oui.
Et donc, les médecins m'avaient condamné. Ils avaient dit qu'il n'y avait plus rien, c'était juste une question de jours.
Oui.
Et donc, ils avaient mis mes parents au courant que bon, il ne fallait pas compter sur moi. Mais l'homme avait dit que c'était fini, mais Dieu n'a pas permis. Dieu n'a pas permis, ça a été... Je vais dire, oui, je pourrais dire que c'est un miracle. Oui. Je vais dire que c'est un miracle parce que vraiment, ils n'y croyaient pas.
D'accord. Donc, voilà, donc, on te disait qu'il y a cet acharnement de Dieu à te garder en vie,
oui.
Alors qu'au début, toi, tu as dit hautement et intelligemment que tu ne voulais ni de Dieu ni de diable.
Oui,
et tu te rends compte que par la Bible d'attente qui te le dit, que Dieu t'aime et il t'a encore épargné de la mort à plusieurs reprises. Alors finalement, par rapport à tout cela, je pense que tu as dû prendre une décision. d'aller demander des comptes à Dieu.
C'est-à-dire que j'ai pas pris de décision tout de suite. Oui. C'est vrai que j'ai continué à vivre un petit peu. C'est vrai que ce que ma tante m'avait dit au niveau de son intervention lors de ma tentative de suicide, oui, ça m'avait quand même touchée. Mais j'étais arrivée à un niveau où, disons que je ne croyais, je n'avais plus confiance.
Oui.
Je n'avais plus confiance. C'est vrai que lorsque ma tante me disait « Jésus t'aime », je la regardais, tout simplement, je n'y croyais pas.
Ouais.
Je n'y croyais pas du tout.
Ouais.
Et c'est vrai que tout le temps, elle m'invitait à aller
en réunion.
Voilà, à l'évangélisation. Et pour moi, c'était, elle me fatiguait. Honnêtement, ouais, je le dis, elle me fatiguait de me parler tout le temps de Jésus. Et c'est quelque chose que, non, j'avais pas envie d'entendre. J'avais pas envie d'entendre parce que pour moi, Jésus est égal contrainte. Et donc, je ne voulais pas entendre parler de Jésus, je ne voulais pas entendre parler de Dieu ni de quoi que ce soit. Je voulais continuer à vivre, en tout cas essayer de vivre. C'est vrai que j'ai connu le père de mes enfants, mais depuis cet homme, il y a quelque chose en moi qui a été cassé. Donc oui, j'étais avec le père de mes enfants, mais au niveau sentiment, au niveau confiance, non, c'était, il y avait quelque chose de cassé. Il y avait vraiment quelque chose de cassé. Mais j'ai dit gloire à Dieu parce que ma tante a persévéré. Elle a persévéré. Et je me suis fait avoir comme une grande d'ailleurs. C'est vrai que tout le temps, elle m'appelait pour me dire oui, qu'est-ce que tu fais cette semaine? Qu'est-ce que tu fais? Et je mentais. Je trouvais des excuses pour ne pas aller à l'évangélisation. Et jusqu'au jour où elle m'a posé la question différemment, je me suis fait avoir. Elle m'a demandé.
Elle t'a dit quoi?
Elle m'a dit, alors comment ça va? Je lui dis, ça va. Elle me dit, je suis très fatiguée. Elle me dit, ah bon? Elle me dit, tu sors vendredi? Je lui dis, non, je suis fatiguée. Elle me dit, tu sors samedi? Je lui dis, non, je suis fatiguée. Dimanche non plus? Je lui dis, non, je reste là, je suis fatiguée. Elle me dit, alors si tu n'as rien à faire, viens avec nous. Et là, je pouvais plus mentir, je pouvais plus dire, j'avais quelque chose à faire. Et donc, ce qui fait que,
tu as été obligé d'aller.
C'est-à-dire qu'avant, en fait, elle voulait m'inviter d'abord chez elle.
Oui.
Elle voulait m'inviter chez elle, et donc là, je me suis fait avoir. Donc j'ai dit oui, mais je me suis dit en moi-même, je vais chez elle. Elle m'a invité à déjeuner, je vais chez elle.
Oui.
Mais si jamais elle me parle de Jésus, je prends mon sac et je m'en vais.
Mmh.
Et donc arrivé chez elle, rien, pas un mot sur Jésus, rien du tout, aucune parole. Et juste à la fin, elle m'a demandé, Christine, est-ce que tu permets que je te montre un témoignage de quelqu'un qui a souffert comme toi depuis son enfance? Elle me dit, je voudrais juste que tu regardes ce témoignage. C'était le témoignage de Nicky Cruz, qui donnait dans une grande salle. Et je lui dis, ok, c'est vrai que je me suis installée, je regardais, il a parlé de son enfance, comment il a été rejeté. Et c'est vrai que ça m'a touchée, j'étais complètement captivée par ce témoignage et de tout ce qu'il a vécu. Et de ce qui m'avait touchée, c'était à la fin de son témoignage que Jésus lui disait je t'aime. Et ça, je comprenais pas. Ça, c'était pour moi, je disais mais je comprends pas. Après tout ce qu'il a fait, je dis mais c'est pas possible, je comprenais pas comment Jésus pouvait aimer un homme comme lui. Et j'avoue que j'ai demandé à ma tante de me prêter cette cassette et je l'ai regardée, je suis rentrée chez moi, j'ai mis cette cassette et j'étais, on va dire, à 5 centimètres de la télé. Je voulais vraiment regarder les traits du visage de cet homme pour voir s'il mentait. Donc je regardais les traits de son visage quand il parlait de son enfance, la douleur, on voyait la douleur quand il parlait de son enfance, de tout ce qu'il a vécu. Et c'est un témoignage qui m'a beaucoup touchée. Et je me suis prise à prier. J'ai dit, Seigneur, je comprends pas. Je ne comprends pas comment tu peux l'aimer. Alors, et moi, je n'ai pas fait le quart de ce qu'il a fait. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu ne m'aimes pas moi? Et c'était ma prière. J'ai dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi tu ne m'aimes pas alors que je n'ai pas fait le quart de ce que lui a fait. Et c'est vrai que j'avoue que ma première à l'évangélisation, en fait, c'est même pas ma tante qui m'a invité, c'est moi qui lui ai demandé si je pouvais y aller.
Oui.
Donc j'y suis allée, et lorsque c'était à la Porte Dorée, avec le pasteur Barma et Archange, et c'était oui. Archange qui faisait l'évangélisation, et j'étais assise et j'écoutais cet homme parler, j'avais l'impression qu'il parlait de ma vie. Alors j'ai demandé à ma tante, je lui ai dit mais tu as parlé de moi? Elle me dit non. Je dis mais c'est pas possible. Je dis cet homme il parle de moi. Elle me dit non, c'est le Seigneur qui parle au travers de lui. Et je me disais mais c'est n'importe quoi. Je dis c'est le Seigneur qui parle au travers de lui. Je comprenais pas moi toutes ces choses.
Tu étais un peu rationnel.
Voilà, je disais le Seigneur parle. Je dis pour moi j'étais convaincue qu'elle avait parlé et j'ai accepté quand même le Seigneur.
Mm-hmm.
J'ai accepté mais
avec des réserves.
Avec des réserves parce que je n'avais pas, je n'arrivais pas à croire en l'amour de Jésus.
Mmh.
Je n'arrivais pas du tout à croire en son amour pour moi.
Mmh.
Et je n'arrivais pas non plus à lui dire je t'aime.
Mmh.
Et c'est vrai qu'on me disait assez souvent Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Je le voyais sur les livres, Jésus t'aime. Et lorsque je voyais ces deux mots-là, Jésus t'aime, je survolais les deux mots parce que je ne voulais pas voir. Je ne voulais pas, parce que j'avais trop souffert, je ne voulais pas croire à l'amour de Jésus pour être encore déçu. Je ne voulais pas croire à cet amour. J'avais beaucoup de doutes en moi, beaucoup de doutes, et je ne voulais pas croire à cet amour. Et chaque fois que je voyais marqué « Jésus t'aime » ou quand on me le disait, je n'y croyais pas. Et jusqu'au jour où c'est vrai que un livre, ce livre que c'est au fil des jours, et je suis tombée un jour sur une, c'est la journée du 8 décembre où j'étais là et
quelle année, 8 décembre quelle année?
C'est tous les jours, c'est pour toutes les années.
Oui.
Et là, le Seigneur me faisait une déclaration d'amour.
Mmh.
Il me faisait vraiment une déclaration d'amour, et là j'ai senti une chaleur qui rentrait en moi, une chaleur qui rentrait vraiment en moi, et là je pleurais et j'ai commencé à croire à ces paroles. Je vivais en fait ces paroles, je les vivais, et là j'ai pu vraiment m'exprimer, dire au Seigneur que je l'aimais. J'ai pu vraiment me lâcher, me libérer. Il y avait vraiment une chaleur qui était rentrée, et moi j'ai dit gloire à Dieu, parce que c'est vrai, de suivre Jésus c'est quelque chose, mais si on ne croit pas en son amour, si on ne croit pas, on ne peut pas avoir la joie. On a toujours des doutes, on a toujours beaucoup de doutes, et c'est ce qui nous freine, ce qui nous empêche d'avancer. C'est vrai que j'allais toujours moi aux évangélisations parce que j'avais envie d'entendre parler de ce Jésus, mais je n'avais pas encore. Cet élan pour lui dire je t'aime. Je ne voulais pas dire je t'aime avec ma bouche, je voulais le dire avec mon cœur.
Oui. Donc ça y est, donc ça a été, donc ce jour, donc tu as été délivré de ça.
Voilà,
donc,
j'ai eu cette délivrance.
Tu pouvais à même de dire à Jésus que tu l'aimais.
Voilà, et de croire.
Librement, et de croire qu'il t'aimait.
Voilà.
Mm-hmm.
Mais ce que je veux dire, c'est que je vais revenir, parce qu'il y avait un non-pardon en moi.
Un manque de pardon par rapport à celui qui t'avait.
Voilà, et je vais me permettre de parler de ce ministère hein, de délivrance, oui. MDM,
oui.
Que j'ai connu l'année dernière. Et c'est vrai que lorsque je suis allée, c'est vrai que souvent je priais, j'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, je sens en moi, je sens qu'il y a, j'ai besoin de délivrance. Je délivre-moi parce que je ressens en moi qu'il y a ce besoin de délivrance. » Et jusqu'au jour où j'ai su qu'il y avait ce ministère, et c'était une façon pour lui de me dire va prendre ta délivrance.
Oui.
Et là je suis allée, et quand je suis allée, il parlait du don pardon.
Oui.
Donc je suis allée, je me suis avancée, et là c'était terrible parce que c'était très difficile. J'avais les deux bras croisés, je n'arrivais pas du tout à pardonner. Je n'arrivais pas à pardonner, et plus on parlait, on disait je t'ai blessé, je te demande pardon, je t'ai blessé, je te demande pardon, pardonne-moi, dis-moi que tu m'as pardonné. Et moi c'était non, je n'arrivais pas. Enfin, je suis allée une première fois, je me sentais, c'est vrai qu'après je me sentais un petit peu mieux, mais je sentais que c'était pas le vrai pardon. Je voulais vivre moi cette délivrance. Et je suis allée un autre jour, et là encore, il y a eu un appel concernant les gens qui sont allés, qui ont fait cette démarche pour le non pardon et qui ont encore, qui ressentent que c'est pas encore ça. Donc je suis retournée. Je suis retournée prendre ma délivrance. Et pour
parce
moi,
que,
j'étais.
Parce que tu faisais le constat que tu avais un besoin de délivrance.
Oui, j'avais, surtout à ce niveau-là. Oui, j'avais vraiment.
Parce que lorsqu'on parle comme ça, ça veut dire qu'on est conscient qu'on est possédé par un esprit de manque de pardon. Oui. On voudrait pardonner, mais on n'y arrive pas. Voilà. Rien à faire, on n'y arrive pas.
Voilà. Au début, c'était non, je refuse de pardonner. Ensuite, c'était Seigneur, je veux pardonner, mais je n'y arrive pas. Et là, je me rendais compte que Seigneur, j'ai besoin de pardonner parce que c'est la clé. C'est la clé, j'ai besoin de pardonner, je veux me sentir, je ne veux plus porter ce fardeau sur mon cœur, je veux libérer cet homme. Et donc, la deuxième fois j'y suis allée, je suis repartie, c'est vrai que j'étais heureuse, j'étais contente, j'étais... Mais lorsque je me suis retrouvée face à face avec cet homme, je me suis dit, c'est pas encore ça. C'est pas encore... Non. Et je suis retournée une troisième fois... Et c'est vrai que là, quand ils ont commencé à me parler, et là, j'ai senti quelque chose qui rentrait, quelque chose de chaud, et inlassablement, je répétais, oui, je pardonne, oui, je pardonne, oui, je pardonne, oui, je pardonne. Et là, ce jour-là, j'ai eu ma délivrance. Oui. Et c'est vrai que je l'ai expérimenté, parce qu'il fallait que je me retrouve face à cet homme. Et j'ai dit, gloire à Dieu, je suis délivrée. Oui. J'ai pu pardonner à cet homme. Oui. Et pour moi, c'est comme si on perdait 20 kilos d'un coup.
Ah bon.
C'est comme si on perdait 20 kilos et ça fait du bien.
Ouais.
C'est très difficile. C'est vrai que le non-pardon, c'est quelque chose de très, très difficile.
Qui mine notre vie, qui nous rend malheureux.
Oui, oui, oui. On vit avec, mais on est malheureux. Et c'est vrai que moi, je l'ai expérimenté et ça a mis du temps. Ça faisait 29 ans que je n'arrivais pas à pardonner, mais j'ai dit gloire à Dieu parce que maintenant je peux dire que je suis libre.
Alors je voulais juste revenir sur un point avec toi, c'est que on a vu dans ta vie que bon, tu as connu ce qu'on appelle le viol, donc tu as été violé tout ça. Donc mais au niveau de la délivrance, ils se sont pris comme à trois reprises. Donc ça n'a pas été une délivrance de coup de baguette magique. Donc
non,
il y a eu tout un cheminement, tout un parcours. Donc c'est pour encourager ceux qui...
Oui, c'est-à-dire que la délivrance ne se fait pas forcément tout de suite. Elle peut être instantanée.
Oui, ça peut être comme ça aussi.
Voilà, ou bien elle peut se faire
par étapes.
Plusieurs... Voilà.
Par étapes.
Surtout que là, c'était un gros morceau, donc ça s'est fait vraiment par étapes.
D'accord, ok. Mais entre les étapes comme ça, donc tu continues à persévérer, tu continues à vouloir ta délivrance, à prier,
oui,
etc.
Oui. J'en voulais vraiment. Je voulais vraiment m'avancer plus près de Dieu. Je voulais grandir. Je voulais vraiment persévérer, grandir, m'approcher de Dieu.
Et c'était un blocage pour toi, ce manque de pardon de ta vie te bloquait.
Oui. Ah oui, ça fermait toutes les portes.
Tu as goûté à l'amour de Christ, mais le manque de pardon étant en toi, donc tu ne pouvais pas pleinement jouir de cet amour-là parce que tu étais bloqué par cela.
Parce que
pas de joie, pas de paix, sachant que Dieu t'aime.
Voilà. C'est-à-dire que moi, je voyais surtout par rapport à tout ce que j'avais fait, Dieu me disait, je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné. Il me demandait, c'est vrai, à certains moments, de ne pas être dur. Je t'ai pardonné, donc pourquoi toi tu ne peux pas en faire de
autant.
Même, voilà. Et donc c'est vrai que quand on le dit, il y a une prise de conscience. Il y a un moment, il y a une prise de conscience et on réalise que si Dieu est arrivé à me pardonner, je suis capable de le faire et je suis capable, mais pas seul.
Oui.
J'ai besoin d'une intervention divine. J'ai besoin vraiment de l'aide de Dieu et Dieu, comme on dit, Dieu a dit qu'il serait là tous les jours et il était là. Il m'a vraiment délivré.
Amen. Donc, on voit aussi à travers ta délivrance que Dieu a utilisé aussi des personnes pour t'aider dans la délivrance. C'est pas tombé du ciel comme cela,
mais
Dieu a utilisé des serviteurs, des servantes. Il y a une démarche de ta part. Donc, tu as fait le constat par rapport à la parole de Dieu, par rapport à l'esprit de Dieu, par rapport à la prédication. Tu as fait le constat que tu avais besoin de délivrance.
J'avais besoin, oui.
Et par rapport aussi à ce que tu passes à l'intérieur de toi-même, tu vois que tu étais malheureuse, tout cela. Donc, il y a eu cette démarche par rapport à cela. Et là, Dieu a utilisé des hommes et des femmes pour contribuer à ta délivrance.
Voilà, oui, c'est ça. C'est-à-dire que Dieu fait, mais Dieu attend aussi de nous que nous fassions.
Oui.
Il y a une démarche à faire. Si nous, on ne peut pas rester là et attendre que ça nous tombe sur le coin du nez.
Oui.
Nous avons une démarche à faire.
Oui.
Et donc, cette démarche, je l'ai faite. Dieu a vu vraiment la sincérité de mon cœur de vouloir vraiment être délivré. Et Dieu agit. Dieu agit.
Et sinon, en tout cas, merci de nous avoir reçus chez toi.
Ben, c'est moi qui vous remercie d'être venu et... tout ce que je souhaite vraiment, c'est que, eh bien, au travers de ce témoignage, qu'il y ait vraiment des cœurs qui soient touchés, mm-hmm. Qui prennent conscience que c'est vrai que la vie sans Dieu, ce n'est pas une vie. La vie sans pardon n'est pas une vie. On ne peut pas vivre sans pardon. En tout cas, on ne peut pas plaire à Dieu sans pardonner.
En tout cas, aujourd'hui, tu es une femme heureuse, une femme épanouie.
Oh,
donc,
oui.
Maintenant, tu connais la vraie joie, le vrai bonheur.
Oh, oui, oui.
C'est pas seulement que tu vois ça chez les autres, mais tu l'expérimentes de
voilà,
manière personnelle.
Je le vis. Je vis cette joie, la joie d'être enfant de Dieu, la joie d'avoir été recueilli par Dieu, d'être appelé enfant de Dieu. Pour moi, d'avoir été accueilli dans la famille de Dieu, c'est quelque chose de très très important. D'avoir vu que, eh bien, si ma famille m'a rejeté, que Dieu lui m'a accueilli les bras ouverts, ça c'est quelque chose on peut pas définir. C'est vraiment quelque chose d'énorme.
D'accord. Merci beaucoup et puis que Dieu te bénisse
oui.
Et puis bon courage.
Oui, ben merci vous aussi. Bonne continuation.
D'accord.